Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Parler de l'alcool, de la musique, de la solitude, enfin plus précisément répondre à des questions sur l'alcool, sur la musique, sur la solitude, bon, on a le droit d'être banal. Mais Françoise Sagan, sans dire en l'occurrence quoi que ce soit de révolutionnaire, n'est pas banale. Elle répond sur un ton tellement simple, non affecté, qu'on l'écoute avec bienveillance. Et l'on devine à la fois le respect qu'elle a pour l'homme qui l'interviewe et le détachement qu'elle peut mettre dans ses réponses. Cela est un jeu, cela n'est pas sérieux. D'ailleurs, parler, parler, elle déteste les gens qui parlent de leurs projets. Écrire, oui. Et puis, écouter de la musique ? Ah, il y avait une émission sur la musique, dit-elle, mais c'était horriblement tôt. Elle s'en amuse. Au micro d'André Halimi, le 3 janvier 1973, cette émission était à 8h du matin. Alors le matin, dit-elle, moi j'ai un emploi du temps assez restreint, je dors.
Le journalisme, François Sagan, ça vous a séduit à un moment donné ? Vous avez fait des papiers dans les journaux, puis vous avez arrêté, enfin... Est-ce que c'était une chose que vous auriez aimé faire ? Enfin, c'est quoi un peu le journalisme pour vous ? De temps en temps, on se demande si vous avez des velléités journalistiques ou non.
Non, j'ai quelquefois des énervements ou des admirations. Par exemple, je suis rentrée à l'Express à cause d'un film de Chabrol qui avait fait un film sur les bonnes femmes que j'aimais beaucoup et qui avait été démoli par la critique. Et j'ai dit à Grimbach que j'ai trouvé le film très bon. Il me dit, fais donc, j'ai fait l'école de cinéma pendant 3-4-5 mois, je crois. Ça se passe par à coup, par humeur. En un moment, d'Algérie, j'ai fait l'article sur Zemia Boupacha, enfin, des choses de fureur ou de... Mais c'est pas mon métier, je veux dire.
Oui, puis dans un quotidien, vous avez fait aussi des papiers sur des problèmes de justice ou... Non
plus... Ah oui, je travaillais pour François sur un procès.
Sur un procès, c'est ça.
Oui. Il y a très longtemps, quelle mémoire, il y a 10 ans.
Oui. Et vous n'avez pas envie de faire des papiers, de faire des... D'une façon régulière, ça vous ennuierait ?
Oui. Tout ce qui est régulier, finalement...
Vous ennuie ?
Oui.
Et pourtant, quand, par exemple, vous lisez des journaux, quand vous écoutez ce que disent les gens, quand vous écoutez la radio, moi, vous réagissez, vous n'aimez
oui.
pas les choses. Vous n'aimez... Et comment exprimer, alors, ce qu'on peut appeler l'humeur quotidienne ?
Vous savez, il y a une manière, il y a aussi une façon de s'énerver. Bon, si je vais demain écrire que je déteste la guerre au Vietnam, je ne crois pas que c'est un grand intérêt pour qui que ce soit. Ça n'entra pas la guerre et ça ne va surprendre personne. Mais le fait d'emmagasiner tout le temps, au cours de la vie, tout ce qui se passe, de subir les choses, de les subir en tant que témoin, de les garder, de les remâcher, au bout de 2 ans, ça peut faire un livre. Enfin, un livre. Une chose un peu énervée qui fait un livre.
François Sagan, il y a un peu des choses qui m'ont étonné quand j'ai lu tous ces dossiers. C'est par exemple la réputation de dilettantisme. Alors vous avez écrit quand même 9 romans, vous avez écrit 8 pièces de théâtre. Donc finalement, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Alors pourquoi on dit que vous avez du mal à terminer un roman, que l'éditeur attend impatiemment, que...
J'y tiens beaucoup cette réputation.
C'est vous qui faites ça. C'est vous qui
suscitez
ça.
Parce que, comme tout à l'heure, on en parlait, je déteste les gens qui parlent de ce qu'ils font, leur métier, qui vous cassent les pieds avec leur programme, leur projet, leur tournée. Alors, moi, j'en parle jamais. Déjà, ça fait pas bien. Et puis, en plus, si on m'en parle, je dis, oh, moi, je sais pas, je vais faire. Bon, je travaille peut-être 2 mois par an. Alors, ça fait pas sérieux, mais j'y tiens beaucoup.
Vous n'aimez pas les écrivains qui, tous les ans, à la même époque, remettent un livre, par exemple, soit avant les vacances, soit. Ça vous agace, enfin, ne parlons, je veux pas de nom, mais enfin, le phénomène qui consiste à remettre un livre par an vous paraît critiquable.
Oh non, pas du tout, moi j'ai absolument rien contre. Vraiment, si j'avais une devise dans la vie, c'est chacun fait comme il veut, ça me dérange pas du tout. Mais si vous voulez, je trouve d'une part ennuyeux que les gens aient toujours des projets, des plans et qu'ils vous les expliquent du matin au soir, c'est tuant. Et deuxièmement, je trouve que pour une femme surtout, une femme qui parle de son travail, c'est tellement ennuyeux. Déjà, les hommes, c'est pas rigolo, mais alors les femmes, alors, c'est abominable. D'une certaine façon, elles se prennent un peu, même peut-être plus souvent au sérieux que les hommes. Quand ils ont un métier, ils réussissent. Et ça, j'ai trop souffert par ça, mon Dieu, de ces récits, pour envisager d'en faire autant. Et je trouve le côté un peu désinvolte, un peu dilettante, ou finalement plus élégant et plus poli que de dire je fais ci, je fais ça.
Vous n'aimez pas la personne qui fait carrière, la carrière, enfin tout ce qui est figé vous agace.
Ah oui, moi ça me paraît terrifiant. C'est mort, quoi. Je veux dire, faire partie d'un jury, pas une chose extravagante, un truc comme ça. Je pourrais jamais. On m'a demandé plusieurs fois, d'ailleurs très gentiment, mais j'ai pas pu. Je ne savais absolument pas où je serais en septembre ou en octobre l'année prochaine. Enfin, c'est une chose. Peut-être que je serais au Mexique, je sais pas.
Je sais, mais alors, est-ce que vous n'avez pas un peu l'illusion, enfin, de l'illégalité, la chose en marge, parce que l'emploi du temps un peu bousculé, enfin, ne pas savoir qu'on sera là à telle date, enfin, est-ce que c'est réel ou c'est une illusion que vous voulez vous donner encore? Parce que quand même, vous avez encore des devoirs, j'imagine, de toutes sortes. Des dates précises?
Non. Là, je sais pas du tout. Oui, je dois aller demain en Normandie, des amis, pour 2 jours. Et mon programme s'arrête là. Je peux vous montrer mon agenda.
Je prends un verre d'eau, un grand verre d'eau. Okay. Et l'alcool?
Oui. Je n'ai pas eu la poudre, cette histoire.
La première fois que j'ai été chez vous, c'était rue de Villers-Excel, par exemple. Et quand j'étais arrivé chez vous, j'avais vu des bouteilles par terre. J'avais été un peu décontenancé, quoi.
Bon, c'était le bonheur qui était posé là, c'est tout. J'ai pas mis une bouteille au milieu de mon salon pour faire comprendre que j'étais à l'être libre.
C'est ça. Bon, alors, non, mais l'alcool, c'est quoi? C'est merveilleux.
L'alcool, oui, c'est vrai, c'est un aide. C'est un fidèle lieutenant quand on est trop fatigué. Ou quand on a le cafard, ou quand on est très gai. Les 3 cas sont bons. Il faut faire attention de ne pas boire trop parce que ça rend vilain, mais tout.
Mais alors, quand vous écrivez, par exemple, vous êtes à jeun ou vous buvez un petit peu?
Oh, généralement, j'écris absolument à jeun. Il m'est arrivé d'écrire en ayant bu pas mal, parce que je ne pouvais plus écrire, j'étais exaspérée. Et quelquefois, c'est ce qu'il y a de mieux dans le livre. Très curieusement, parce que l'esprit se... Enfin, surtout pour le dernier, l'esprit se libère...
Mieux.
Oui, et comme c'était une espèce de... pas de confession, mais de récit à la première personne... Je m'énervais, l'alcool donne un coup de fouet, je m'énervais et je parlais plus facilement. Parce que le dernier livre, j'ai dû en dicter la moitié. Ça, c'était terrible.
Et c'était une chose nouvelle pour vous de dicter?
Oui, j'avais toujours travaillé tout seul. Et puis, je suis tombée d'un cheval qui m'a jeté par terre. Je lui ai cassé le coude. Comme je tapais avec 3 doigts d'une main et 3 doigts de l'autre, alors 3 doigts, c'était vraiment trop long. J'ai donc pris quelqu'un qui était sténo-dactylo et qui je dictais. Et au départ, je pouvais pas. J'ai l'impression d'être complètement, comment dit-on, exhibitionniste. Je ne pouvais pas lui dire à cette dame, Éléonore rentra, sortit, repartit. Je ne pouvais pas. C'est horrible. Et puis, elle est venue 3 soirs de suite travailler avec moi. Ça ne marchait pas du tout. Chaque fois que j'écoutais, je suis désolée, je suis navrée, j'arrive pas à parler, je ne sais pas en parler d'autre chose. Et puis le troisième soir, je me suis dit, quand même, elle vient de Montmartre, elle prend le métro, elle travaille, elle vient chez moi, elle est payée à l'heure, et je m'offre le luxe, l'horreur de lui renvoyer au bout d'une demi-heure avec un malheureux sandwich et un verre. J'étais horrifiée, alors, j'ai pris 4 whisky justement ce jour-là, et sans la regarder, j'ai marché devant à large vitesse. J'ai fait kilomètres dans la pièce et je suis arrivée à dicter. Et après, ça allait très bien. C'était même très, très, très commode. Très agréable.
Et vous avez d'autres stimulants, la musique par exemple, est-ce que ça vous aide la musique? Est-ce que vous avez, je sais pas, un air que vous aimez bien
Non, moi la musique j'écoute. Et quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique.
C'est ça, vous ne travaillez pas en musique?
Non.
Il y avait une émission, elle s'appelait Travailler en musique.
Oui.
C'était pas pour vous.
C'était très tôt en plus. Horriblement tôt, il était 8h du matin.
C'est ça, c'était pas pour vous.
Non, aucun point de vue. J'ai un emploi assez restreint le matin. Je dors.
Alors avec Des Bleus à l'âme, il y a des gens qui ont été très émus. Je sais pas, vous avez créé une sorte d'émotion.
Oui, j'ai un courrier.
Les gens se sont peut-être aussi reconnus, ou bien les gens avaient besoin de cette effusion.
Bon, les gens, vous savez, les gens vivent très seuls. Ils ont une vie assez triste, même s'ils ont apparemment... Ils ont une vie assez solitaire, tout le monde a une vie assez solitaire, une vie de loup un peu. Alors, peut-être que la mesure où ils pouvaient se reconnaître un petit peu dans ce que je disais, c'était une main tendue, quoi. Comme une autre. C'est rassurant de penser que quelqu'un pense comme vous.
Justement, la solitude, c'est un thème très important chez vous?
C'est pas, c'est pas important chez moi, là, c'est important partout. C'est pas un thème que j'ai choisi.
Enfin, chez vous, parce que chez vous, vous avez publié des livres, disons que chez oui. Les gens qui n'ont rien écrit du tout.
Oui, naturellement. Je crois que c'est le problème, un des problèmes majeurs actuellement. Les gens dans la rue, quand vous prenez en voiture, vous regardez les visages des piétons. Il y en a qui parlent tout seuls, il y en a qui ont un drôle d'air, il y en a qui marchent à travers, il y en a qui sont affairés, mais d'une manière un peu maniaque. Il y en a, c'est très étrange. Les gens sont tous un peu affolés, je crois. Je crois que c'est une époque vraiment un peu trop tendue, si vous voulez, actuellement. De temps en temps, que quelqu'un, même schématiquement, explique, même confusément comme moi, ce qu'il peut penser de la vie par rapport, et que les gens y retrouvent une idée qu'ils ont eue eux-mêmes, ça les rassure. C'est rassurant. Non?
Oui.
Mais la solitude, c'est fou. Moi, ce qui m'a le plus frappé en 68, au moment de mai, c'était pas les feux de joie partout, parce que ça remarquait, c'était assez gai. Mais c'était les... J'étais à l'Odéon ou à la Sorbonne, choses comme ça. C'était le goût qu'avaient les gens de parler. On voyait les types. On sentait qu'ils n'avaient jamais pu parler à personne de leur vie. Disons qu'ils étaient beaucoup, qui étaient vilains, qui étaient inintelligents, parce que ce qu'ils disaient était horriblement ennuyeux, qui étaient mortels, d'ennui. On sentait qu'ils étaient ravagés, que l'avoir un micro et que tout le monde les écoute, ils étaient sauvés. Sauvés pour peut-être une heure, mais qui s'en rappellent toute leur vie. Et ça, c'était la chose la plus belle de l'histoire.
C'est ça. Mais vous, on pensait que vous échappiez un peu à cette solitude, enfin, d'une part, parce que vous aviez des moyens d'y échapper.
Ah, mais moi, j'y échappe.
Le livre, l'expression, les amis, la notoriété.
Ah, mais moi, j'y...
Personne n'y échappe, finalement, à la solitude.
Personne n'y échappe. On est seul et on meurt seul. Il n'y a pas de tortillé, c'est absolument impossible. Mais on vit seul pour le quart du temps. De temps en temps, on tombe amoureux de quelqu'un. On se croit qu'on est plus seul pendant un bout de temps, 2 ans ou 3 ans ou 1 an ou 1 mois. Et puis après, on retombe de nouveau seul. Et puis à la fin de sa vie, on meurt. Et puis c'est fini. Mais la solitude dont je vous parlais, c'est que j'aime, moi, c'est la solitude physique où on peut. Où j'en ai eu assez de chance pour avoir les moyens de pouvoir la nourrir avec la musique, ou avec des livres, ou avec des choses qu'on aime passionnément. Alors là, on est sauvé, je veux dire, on est heureux. La solitude heureuse. Mais la solitude fondamentale, qui est celle de l'être humain, ben, je crois que c'est irrémédiable.
Et la tristesse?
Ou ça,
Moi, je trouve que tout ce que vous faites est triste. Est-ce que je me trompe?
C'est comme les... C'est le fameux paradoxe, c'est toujours les clowns sont toujours des gens tristes, et les gens qui écrivent des livres tristes sont toujours très gais.
Par exemple, il y a un de vos romans dont on a fait un film, il y en a pas mal, je sais bien, mais qui avait été réalisé par Jacques Deray, Un peu de soleil dans l'eau froide.
Oui.
Je trouvais ça d'une... Alors, déjà, le roman était pour moi triste, mais le film était encore beaucoup plus triste. Enfin, il était vraiment...
Affreux, parce que j'ai pleuré à ce film.
C'est ça, en plus de la musique, d'une tristesse
horrible. J'ai pleuré comme un veau à ce film. J'ai les bonnes mines en plus, c'est une projection privée avec tous mes amis qui étaient invités. Ça s'est rallumé, moi j'étais en larmes, j'avais l'air intelligent. Non, c'est très triste, oui. C'était quelqu'un d'absolu, l'héroïne. Une femme absolue, alors ça coûte cher.
Oui, l'absolu, plus la passion, plus...
La passion absolue, quelqu'un qui ne transige pas. Moi, Dieu merci, je ne suis pas comme ça. Je ne suis plus comme ça. Autrement, j'aurais fini comme elle. Mais je connais des gens encore comme ça. Très peu.
C'est ça qu'il y a des gens qui...
Enfin, pas dans ce milieu.
Dans les Bleus à l'âme, il y a des gens qui se suicident. Il y a quelqu'un qui se suicide, non?
Oui, il y a un type qui se suicide.
Donc il y a encore des gens comme ça, passionnés.
Lui, il se suicide par fatigue.
Absolu.
Par fatigue, par tristesse, par autre chose. Elle se tue parce que l'homme qu'elle aime ne l'aime plus. Enfin, elle le croit. Mais là, il se tue parce qu'il n'en peut plus de fatigue, d'ennui, de tranquillisant. Ces maudits médicaments qu'on vend partout, comme des petits pains, et qui font que les gens deviennent complètement coucous. Partout, c'est agaçant ça aussi. Le genre tranquillisant de toutes sortes, excitant, là, ça rend les gens zinzin, c'est fou. Le nombre de gens qui en prennent pour travailler, pour sortir, pour se réveiller, pour rentrer, pour dormir. Ça me fait une peur bleue, j'avoue. J'aime mieux un franc whisky. Comme disait le capitaine Haddock dans Tintin et Milou, un honnête whisky.
C'était Entretien avec Françoise Sagan par André Halimi. Première diffusion sur France Culture le 3 janvier 1973. Réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.